Salut tout le monde, bienvenue au deuxième épisode du FaberCast. Je suis votre animateur Faberglass. Je suis ravi de vous avoir à l'écoute encore une fois cette semaine et j'espère que tout le monde va très bien. J'ai très hâte de vous présenter le podcast. On a encore une fois un très bel épisode cette semaine, mais avant de commencer, il y a peut-être certains d'entre vous qui ont constaté que je n'ai pas sorti mon vidéo d'actualité MMA québécois cette semaine et c'est pas parce qu'il manquait d'actualité, au contraire, c'est que mon grand-père s'est fait opérer. Il s'est fait refaire un genou en fait, et puis il y a eu des complications à l'hôpital, il a attrapé une pneumonie. On ne craint pas pour sa vie ni rien, c'est juste qu'on est vraiment une petite famille. Ma mère est enfant unique, j'ai juste ma soeur, ma grand-mère est morte malheureusement depuis quelques années. Donc on est pas mal juste nous trois, puis on est des gens très familiaux. On veut donc qu'il y ait pas mal toujours quelqu'un qui accompagne mon grand-père à l'hôpital, et puis ça fait que tout simplement entre mes trainings puis mes heures de job, je suis à l'hôpital, j'ai pas eu le temps de faire de vidéos pour ça, mais... On a quand même eu de très belles nouvelles, donc j'ai pris quelques notes dans mon cellulaire et je vais vous faire une version abrégée de l'actualité MMA québécois. C'est sûr que la grosse nouvelle qui s'est passée dans la dernière semaine, c'est l'annonce de l'émission Dans l'Octogone au 91.9 Sports. C'est une émission qui est animée par Ken Wong et Stéphane Patry, qui est présentée par TKO MMA et puis qui va avoir rapport avec les arts martiaux. On a déjà eu le premier épisode mardi le 20 novembre. C'est disponible pour ceux qui l'ont raté sur le site ou l'application mobile du 91.9. Et puis... Sinon, vous irez voir le Facebook à Ken Wong. Il a partagé un lien téléchargeable pour le podcast pour ceux qui n'ont pas entendu l'émission au complet. C'était une très bonne émission. Ils ont reçu Marc-André Barrion. Ils ont parlé notamment à Eman Zahabi. Et puis, ils ont relaté les nouvelles dans la semaine. Et puis, il y a eu une chronique que vous pouvez même appeler pour parler avec eux, poser des questions, combattants et tout. Donc, super, très belle première émission de la part de l'équipe de Dans l'Octogone, Stéphane Patry, Ken Wong. Donc ça, c'est la grande nouvelle de la semaine. C'est venu peut-être avec une autre nouvelle qui n'aurait pas été en lien avec ça du tout si on n'avait pas appris ça. C'est que malheureusement, le 91.9 Sport va fermer, ne sera plus une radio sportive à partir du printemps. Donc c'est littéralement arrivé le soir même ou le lendemain de l'annonce de cette émission-là à TKO. Stéphane Lavoie avait aussi une... Stéphane Patry avait aussi une chronique sur l'émission de Jean-Charles Lavoie, et puis Jean-Charles vient de partir pour s'en aller à TVA Sports. On a appris ça, je pense, dans la fin de cette semaine présente là. Donc, très intéressante émission. J'espère que ça va durer pour eux, mais malheureusement, je pense que la station va bientôt changer un peu de vocation. Donc, je ne sais pas combien de temps cette émission-là va durer, malheureusement. Mais bref, ça a été une très belle première épisode. Et puis, je vais sincèrement être à l'écoute pour les autres épisodes parce que on n'a jamais assez de contenu de MMA. Puis, même si ça ne peut que durer que quelques semaines, ben ça sera quelques semaines qu'on aura plus de contenu de MMA. Puis, ça, je dirai jamais non à ça. Ensuite, nouvelle TKO 45. Jeanne Masson-Wong, son adversaire, s'est blessé. Lucie Berthaud, malheureusement, elle a été remplacée par Marilyn Mikalev, qui est une combattante des îles de Malte. Deux victoires, aucune défaite. C'est sûr que c'est deux victoires contre la même fille, une fille qui avait un peu d'expérience, mais une fiche pas mal perdante, je pense, de... Je me prononcerai pas vraiment sur sa fiche exacte, je ne me rappelle plus, mais une fiche perdante. Tout ça pour dire, Marilyn Mikalev est 2-0. Elle affrontera Jeanne Masson-Wong le 7 décembre prochain. On a Corinne aussi qui était dans l'attente d'une adversaire, et puis tabarnouche, Corinne qui n'ira pas tranquillement sur cette carte-là, va avoir moins de poids à couper, va se battre chez les 130 livres au lieu des 125 livres, mais va affronter Morgane Riboud, championne de judo, invaincue en MMA, une combattante de très haut niveau, une combattante française qui va nécessairement faire des marques au Québec. Elle est vraiment plus grosse que Corinne, elle a une fiche invaincue de 4-0 en 4 combats. Donc c'est sûr que Corinne a perdu des combats, mais a affronté du très bon calibre, mais Morgane Riboud continue d'être encore du très bon calibre pour Corinne, qui ne recule devant rien. Ça, on devra lui mettre ça à son honneur, mais ça va être un combat très difficile pour elle, selon moi, contre Morgane Riboud. Sinon, Louis Jourdain s'en va en boxe. Pas d'arts martiaux mix pour lui, pour du moins le temps à venir. J'aimerais j'aimerais pouvoir en parler avec lui, ça c'est sûr. J'aimerais pouvoir l'inviter sur le podcast. Lui et son frère, d'ailleurs, il faut que je parle à son frère Charles avant le combat, absolument, sur ce podcast-ci. C'est dans mes plans, et puis c'est ça que j'essaie d'arranger pour vous, mais ça serait bien d'avoir Louis en même temps. Peut-être savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. C'est une nouvelle que Charles a un peu confirmée à la Voix des Guerriers, mais on avait entendu ça sur le podcast d'Olivier Aubin. Merci aussi, il y a quelques semaines, quand il y a eu, je me rappelle plus du nom de l'invité, là, vite de même, mais un très bon podcast. Il a parlé avec un gars très connaisseur sur les Freak Shows. C'est un très bon épisode. Je vous suggère le Canadian Gangster Podcast à toutes les semaines, ça aussi. C'est très bon et très intéressant. Finalement, James Mancini et Adam Hunter sont blessés et ils ne se battront pas. On cherche des adversaires pour leurs deux adversaires qui étaient supposés se battre, c'est-à-dire Marius Krzyzewicz dans le cas d'Hunter et Kendrick Lachman dans le cas de James Mancini. Donc, c'était votre actualité. On va passer au podcast à l'instant même. Mon premier invité, c'est le White Lion, Johan Lennes. On a eu vraiment une excellente discussion ensemble. C'est la première portion du podcast. Pour la deuxième portion du podcast, mon ami et partenaire d'entraînement, Terran Thorne, premier invité américain de l'histoire du podcast, est venu chez moi et puis on a discuté de tout ce qui vient d'arriver avec Tekashi 6ix9ine. Vous le savez, je suis un gros fan de hip-hop. C'est mon podcast. J'avais besoin de le faire, c'est une nouvelle que j'avais envie de discuter. Et Terran, ça donne à être un fan de Tekashi 6ix9ine, quelqu'un qui se tient beaucoup au courant de l'actualité hip-hop, mais aussi un Américain qui comprend bien le genre de loi qui va amener Tekashi 6ix9ine en cours et tout. Donc, peut-être nous amener des petites précisions sur des choses qu'on ne sait pas par rapport à la RICO là et ces affaires-là, pourquoi Tekashi a été arrêté. Donc, on parle à Johan Lennes, ensuite moi et Théoren, on parle de Tekashi 6ix9ine. C'est votre épisode cette semaine, on se voit après. Yes, tout le monde, on est de retour avec un de mes invités cette semaine, Johan Lennes, qui va combattre le 7 décembre prochain dans un combat que je l'ai dit à la seconde près que j'ai su que ce combat-là va avoir lieu. C'est un sleeper sur la carte. Si le monde ne savent pas c'est qui Johan Lennes, puis ils ne savent pas c'est qui Sean Meade, ben ils vont vraiment le savoir probablement après ce combat-là. Mais avant qu'on ait la chance de parler de toutes ces affaires-là, je voulais juste savoir comment t'allais, man.
Ah, ça va bien, ça va bien. Je suis en forme. Le camp d'entraînement va super bien. Tout va comme sur des roulettes. Je travaille fort avec mon équipe. J'appréhende bien le combat qui s'en vient. Je sais que Sean Meade, c'est un gars qui a beaucoup d'expérience, un bon bagage de kickboxing. Fait que j'ai vraiment hâte de pouvoir tester mes armes, tester ce à quoi je travaille au gym contre ce gars-là. Puis je suis confiant que ça va bien aller.
Yes, avant qu'on tourne dans le sujet Sean Meade, je voulais qu'on reparle de ton premier combat un peu. Ça s'est déroulé au Fight Night 1. T'as affronté Yann Jacolin, ça a été une performance, ma foi, assez dominante. Pour vrai, ça a super bien été pour toi. Je pense que il y a pas, il y a peut-être une petite affaire, c'était là qu'après, quand t'as regardé, t'as dû te dire oh shit, man. Mais en tout, là, je pense que performance assez dominante, man. Super beau top control, du gros ground and pound. Tu y as fait mal, puis. Ça se voyait que dans le coin, entre les deux rounds, malheureusement, il était plus là, il avait mangé des coups et tout. T'sais, je le voyais. Moi, j'étais dans le coin où j'étais, dans le fond. Fait qu'on a, je pense, un peu le même angle de vue de Yann quand, ouais. Dans le premier round. Puis je me rappelle d'avoir regardé Ken à côté de moi et d'avoir dit ouais, je pense pas que ce combat-là, ça va durer. Je pense qu'il va falloir attendre une autre ambulance. Mais. Bon, reparle-nous de ça, même première expérience pro, le fait que justement t'es rentré, t'ont renvoyé en arrière, t'es rentré. Reparle-nous de ça, avec du recul, comment ça s'est passé, comment ouais. T'as dealé avec toutes ces affaires-là.
Clairement, je suis quelqu'un qui est très. J'étais dans ma bulle beaucoup avant le combat, puis mon minding était fait. Fait que c'est sûr que quand je suis rentré dans la cage, ils m'ont dit OK, faut que tu ressortes, qu'on reparte. J'étais là, t'es pas sérieux, là, tu sais, je veux dire. C'est quand ton mindset est fait, t'es prêt à y aller, c'est là que ça se passe, puis c'est comme il t'enlève ton gâteau, oh, tu sais, mais en même temps, tu sais, je suis un gars positif, fait que j'ai tourné ça en positif, puis je me suis dit, regarde, la glace est brisée, hein. Je l'ai vécu une fois, je vais m'arranger pour que la deuxième entrée soit encore mieux, tu sais, j'ai essayé de tourner ça de la meilleure manière possible, je pouvais pas faire autrement de toute façon, tu sais, fait que, tu sais, je suis vraiment content de mon premier combat, c'est certain. C'est sûr que oui, je connaissais bien Yann, je connaissais ses faiblesses, je connaissais ses points forts aussi. Fait que j'avais une stratégie en tête. Certainement avec du recul, je constate qu'il y a certaines choses que j'aurais aimé faire autrement. Par contre, c'est vrai que quand que je l'ai pincé solide, ça s'est ramassé au sol, j'ai vraiment senti que je pouvais avoir le contrôle sur ce gars-là au sol. Puis que, comme tu as dit, entre le premier puis le deuxième, moi, la seule chose que je regardais dans mon coin, j'écoutais mes coachs, mais je regardais son regard, puis je voyais que c'était pas mal fini, là, tu sais. Moi, honnêtement, j'avais pas envie que le deuxième round recommence parce que, tu sais, Yann, je le connais, puis, tu sais, j'ai du respect pour lui, puis je savais que il était sonné, puis que si le deuxième round commençait, ben il y avait des chances que je le finisse pour de vrai. Fait que, tu sais, d'une certaine manière, je suis content que le docteur ait arrêté le combat de ce côté-là. Mais quelle ambiance incroyable, tu sais. Il y a beaucoup de monde, quand tu te bats dans la cage de TKO avec, tu sais, les insignes de l'UFC, tout le setup autour de ça, la semaine, écoute, j'ai vraiment apprécié ça, puis écoute, je me nourris beaucoup de toute cette énergie-là, cette adrénaline-là, j'adore ça, fait que d'aller me battre au Centre Bell le 7 décembre, c'est un rêve pour moi, puis je suis vraiment content, puis j'appréhende beaucoup ce combat-là, j'ai bien hâte. Ouais.
En plus, veux pas, ça va être un peu tes débuts devant la grande audience de TKO, parce qu'on se cache pas que le Fight Night 1, c'était un événement qui était plus exclusif, que tu sais, t'as ton monde à qui t'as vendu les billets, puis les autres gens qui sont venus encourager d'autres combattants qui ont eu, tu sais, la chance de te voir, puis oui, il y avait un beau crowd là, vraiment cette soirée-là. Ça a été une soirée assez magique là, d'ailleurs, pas mal sur toute la ligne. C'est sûr qu'au début, quand ça a pris 1h30 pour 3 prelims parce qu'on attendait des ambulances, je me demandais à quoi qu'on avait le droit, mais en tout ça, les combats, ils ont été le fun, puis après ça, tu sais, on serait Charles contre Kevin Généreux, puis ces affaires-là, on va s'en rappeler longtemps, là, de cette soirée-là. Ouais,
c'était bien aussi.
Ouais, les débuts de Cyril, tout ça, c'était super, des grosses performances ce soir-là. Même, j'ai adoré, moi, étant un grappler, puis un fan de ces affaires-là, j'ai adoré Mancini Gordon, là, sur cette carte-là, vraiment. Tu sais, James, j'adore comment il lutte, un gars, man, que une des plus belles luttes qu'on va retrouver ici, justement, sur la scène québécoise-canadienne. Contre un gars qui a du jouer en tabarnouche là à Gordon, là, une machine, tu sais, de gars sur son dos, il attaque, pis, tu sais. Fait que, une carte géniale, mais c'est veux pas, ça va être vraiment tous tes débuts, tu sais, à un événement télévisé, man, que les gens d'un peu n'importe où dans le monde vont pouvoir ouvrir Fight Network puis voir ça, justement, Johan Lennes contre Sean Mead puis les combats de TKO. Est-ce que c'est un stress supplémentaire, une pression supplémentaire, ou au contraire, genre, t'aimes vraiment ça, pis c'est de quoi que, ben, comme t'as dit, tu te nourris de ça plus que c'est quelque chose qui te...
C'est certain que ça peut être un stress, pis tu sais, c'est sûr qu'il y a un certain stress, mais je pense que rendu là, c'est à toi d'essayer de tourner ton stress d'une manière positive, d'une manière à ce que, tu sais, on a toutes peur quand on rentre dans la cage un petit peu, tu sais, on a toutes certaines craintes, mais de choix de te laisser contrôler par ces craintes-là ou de te nourrir de ça puis de te servir comme ça de motivation. Fait que c'est clair que le fait que je sois sur la carte de TKO 45, c'est quelque chose de gros. Il va y avoir beaucoup de monde qui va regarder ça. Le Centre Bell, c'est big. Mais je pense que ça va simplement faire que je vais lever encore mon jeu encore plus d'un cran puis que je vais être en mesure d'offrir une performance à la hauteur de mon travail puis de... Je bûche à chaque jour, je le sais que je m'en vais me battre au Centre Bell, je sais que ça va être une grosse soirée, je sais que je vais donner une bonne performance. Puis justement, j'ai juste vraiment hâte de démontrer aux gens c'est qui vraiment Johan Lennes, c'est qui White Lion. Puis, mon premier combat c'était bien, mais je peux vous garantir que le deuxième va être encore mieux. Là. Oui, il va y avoir beaucoup de monde, oui, c'est télévisé par tout le monde, mais tant mieux, je pense que je vais être capable de livrer la marchandise pour ce combat-là.
Ah, puis veux pas, grosse chance que vous volez le show, là, on s'entend?
Je sais que Sean Mean, c'est un gars qui a des très bons kicks, un gars qui est spectaculaire, il a une bonne mâchoire aussi, c'est un gars qui est tough, il a beaucoup d'expérience, fait que clairement, là, on va être en mesure de donner un très bon combat, puis clairement, je vais sortir de ce combat-là gagnant, je suis confiant.
Yes, parlons-en de Sean Mean, je veux qu'on commence. En parlant de son premier combat à lui, tu as sûrement la chance de le voir en direct, peut-être même de le réécouter par après. Un des très beaux combats qu'on a vu cette année contre Danny Mallette, de qui par après on a vu assez des grandes choses, tu sais, sur la dernière carte. Donc, qu'est-ce que t'as passé de ce combat-là? Puis, peut-être une deuxième petite question parallèle par rapport à ça. Qu'est-ce que ce combat-là te donne comme indice sur Sean Mead, sur le genre de gars que t'as devant toi, justement?
Ben écoute, c'était un très beau combat, honnêtement. Sean Mean contre Danny Mallette, extrêmement serré. Un gros fight de stand-up. Malgré que Sean Mean a réussi 2 ou 3 takedowns, si je me souviens bien, à la fin du deuxième, puis au troisième round aussi. Sean May est un gars qui a des extrêmement bons kicks, un gars qui peut être surprenant en faisant des spinning kicks, des spinning elbow, back fist, tu sais. Un gars qui est très spectaculaire, un gars qui est très calme aussi, qui a une belle expérience. Par contre, j'ai trouvé quelques failles dans son jeu que je compte bien utiliser à mon avantage durant le combat. Puis, clairement, je sais que c'est un gars qui est solide, mais t'sais, être solide, c'est bien, mais ça prend plus que ça. Fait que je sais que moi, je vais être capable de... Mallette l'a touché à plusieurs reprises, ça n'a pas semblé l'atteindre plus que ça. Un bon high kick qu'il a donné, qu'on a vu qu'il était ébranlé, il s'est collé en corps à corps. Fait que t'sais, ça s'est bien passé, mais t'sais, Sean Mean, je pense que moi, si je le touche, là, ça va être différent que Mallette. Ça me prendra pas 2-3 coups de poing pour le coucher.
Ouais, c'est définitivement... Moi, ce que j'aime de ce combat-là, c'est que lui, oui, t'sais, il a réussi, il a eu des bons moments encore à corps contre Danny, mais tu vois vraiment que sa stratégie première, où lui est à son meilleur, c'est à distance, quand il peut se servir de ses pieds, se servir d'une assez longue portée. Puis, toi...
Je l'ai pas vu lancer un jab dans le combat.
Non, pas vraiment, hein.
Pas un jab. Fait qu'écoute, c'est correct, tu sais, il lance des bons kicks. Gaucher contre droitier, c'est sûr que le jab peut, tu sais, faut que tu fasses attention, mais en même temps, c'est comme tu le dis, c'est un gars qui aime être à distance, qui aime utiliser ses kicks. Fait qu'on va voir si je rentre dans le pocket, qu'est-ce qui va se passer, puis.
Exactement, c'est ça, je trouve le fun de ce combat-là, parce que toi, t'es pas mal, selon moi, la définition d'un pressure fighter. T'es pas un gars qui aime vraiment reculer, c'est par en avant, ça se passe. Pis super inconfortable en corps à corps, pis t'es super inconfortable sur le top avec ton ground and pound, pis ces choses-là. Choses que t'as besoin d'avoir si tu veux te battre de la façon que tu te bats. Fait que c'est hot, je trouve, le match-up que ça va amener, parce que c'est sûr que lui va vouloir garder sa distance, implémenter sa kicking game. Toi, tu vas vouloir aller de l'avant, rentrer dans la pocket, te servir de tes mains, peut-être même te servir un peu de ta lutte, pis t'en retrouver sur le top, aller donner des bons coups du bon ground and pound. T'as retrouvé dans un élément que t'es confortable. Fait que juste ça, c'est un style match-up que je trouve qui est fascinant. Nécessairement, ça va donner... Tu sais, parce que tu vas lui donner la chance, justement, de reculer puis de jouer sa distance game sans qu'il soit jamais confortable. Puis lui, va te donner la chance, en voulant jouer sa game, de pouvoir avancer, pouvoir mettre la pression. Fait que c'est hot, je te le dis, comme j'ai dit tantôt, c'est parce qu'il a des cris, man. Mon chien, il vient foutre la merde, ça. Un petit pug, man. Il est démoniaque.
Ah non, mais tu es malade, des pugs.
Ah, il est écœurant, man. Il est écœurant. Je vais juste un peu, je vais aller ouvrir la porte, là. Il est venu rentrer ici, mais là, il veut sa crise au camp. Vas-y, bye. Yes, sir. Mais. Ouais, non, tout ça pour dire que c'est comme je l'ai dit, c'est clairement un des sleepers à la carte. Puis vous avez la chance, man, c'est wide open. La carte est bonne, mais est vraiment top heavy. Est vraiment, tu sais, le monde va majoritairement aller là pour voir Morgan contre Jourdain. Puis, ouais. Personnellement, je pense que les autres combats qui ont de l'attraction sur la carte, il y en a pour les hardcore MMA fans. C'est sûr qu'ils vont aimer ça voir un Hill contre Lapillus. Mais est-ce que le partisan québécois moyen va triper à checker un Ontarien contre un Français se battre? Peut-être pas. Fait que je pense que c'est... Tu sais, c'est dans vos mains, c'est dans tes mains à toi d'être, tu sais, le petit Québécois que le monde, c'est la première fois, là, pour beaucoup qui vont te voir. Ils savent que c'est déjà battu au TKO, mais c'est la première fois qu'ils vont te voir en action devant le grand public pis tout. Pis, tu sais, gros, il y a tout le temps 2-3 affaires qu'on parle en sortant d'une carte de TKO. Pis vous avez vraiment des bonnes chances d'être ce qu'on parle en sortant de cette carte-là. Fait que je pense que pour toi, l'opportunité est là. Pis ça m'amène à parler un peu, veux pas, de Danny Mallette. Parce que, moi, c'est un match-up que je veux voir. Je pense que vous êtes... Tu sais, gros, ça serait un combat parfait à Montréal, à Québec, n'importe où. Tu sais, la rivalité de la région de Montréal contre la région de Québec. Deux gars qui ont du front tout le tour de la tête, man, qui vont là pour se battre. Deux gars que les Québécois vont nécessairement être derrière. Tu sais, Danny, à Québec, il a déjà son crowd. T'sais, nécessairement, de la manière que tu te bats, ça va être dur que les gens t'apprécient pas. Fait que je pense que... On est peut-être en train de build un match-up. T'sais, peu importe ce qui arrive dans ce combat-là, c'est pas le prochain combat. Je pense qu'on est en train de build de quoi dans le futur, un genre d'affrontement québécois chez les 170 livres qui, man, si tout va bien et vous vous développez comme vous pouvez vous développer, ça peut être un match-up
assez... Clairement. Hein? L'animalette, écoute, selon moi, c'est t'sais, à 170 livres, c'est sûr que t'sais, il fait ses débuts, mais c'est un gars qui a un très bon striking, là. Écoute, qui est très complet debout. Clairement que j'aimerais ça pouvoir partager la cage avec ce gars-là. Clairement, je pense que ça ferait une très bonne guerre. J'ai rien contre la personne, là. Je veux dire, c'est un sport de combat, puis tu sais, c'est un sport de respect, puis je veux dire, Danny Mallett, je suis sûr que c'est une super la bonne personne, mais c'est sûr que quand je vais avoir passé par-dessus mine, moi puis Danny Mallett, on n'aura pas le choix de se rencontrer, c'est certain, dans le cage, puis on verra rendu là qu'est-ce qui va se passer, mais honnêtement, je vais être honnête avec toi, Danny Mallett, il est zéro dans ma tête en ce moment, tu sais, je focus sur Sean Mean, tu sais, c'est un gaucher. Danny Mallett et Sean Mean n'ont pas le même style, tu sais, c'est deux gars différents, malgré que leur combat, ça c'était très serré, puis c'était un combat de kickboxing stand-up. C'est deux gars qui ont des armes complètement différentes. Fait que je veux pas trop penser à ce gars-là pour l'instant, mais tu sais, je l'ai dit, puis je suis un gars qui se donne des objectifs à court, moyen et long terme. Mon objectif à court terme, c'est de passer par-dessus mine, d'être 2-0. Puis ensuite, on verra comment ça va aller, mais c'est sûr que Danny Mallett, il est dans mes objectifs, puis je pense que ça va être un bon combat, c'est certain.
Bon, that's it, man. On a parlé de combat. C'est le fun. On est un peu là pour ça. Veux, veux pas. Podcast d'MMA et tout. C'est une page d'MMA. Mais j'aime ça de parler d'autres choses, moi, dans la vie. Pour vrai, je trouve que c'est important de présenter le combattant pour qui est dans la cage, pour qu'il nous parle. Je le sais que vous voulez venir parler de vos combats. Et nous, vous travaillez tellement fort là-dessus. C'est la moindre des choses de vous donner la plateforme pour parler de ça. Mais un coup que c'est fait, j'aime ça de parler d'autres choses parce que, oui, le combattant moyen, tu sais, il va se faire des partisans de par ses actions dans la cage, mais je pense qu'il est capable de se faire beaucoup de partisans de par ses actions hors de la cage, dans le sens que les gens, mettons-le, exemple, on se met à jaser puis tu dis, ah oui, moi, il y a vraiment telle affaire que j'aime bien gros, là, je joue au golf, je joue au golf l'été, j'aime bien gros ça, je suis un golfeur, moi. La personne ouais, qui est...
Nice.
Ouais, c'est hot, le golf, pour vrai. Une personne qui est une golfeuse va se dire, hey, Johan Lennon, tu sais, il est bon, pète des gueules dans la cage, c'est hot. Pis en plus, c'est un golfeur, tu sais, on joue au golf, on a des points en commun. Je pense que ça, ça aide vraiment aux partisans à s'attacher à vous, que vous soyez plus relatable comme combattant. Fait que c'est pour ça que je te demande, quand t'as un break, là, tu sais, mettons après ton combat ou n'importe quoi, pis tu dis, allez, j'ai une couple de semaines que, tu sais, je vais soit prendre un break de gym ou juste aller faire un training par jour où c'était là, pis avoir le restant de ma journée. Qu'est-ce que tu fais?
Ben, je suis un gars de famille, je te dirais. Je suis vraiment un gars de famille. J'ai pas une grosse famille, j'ai une petite famille. Fait que j'essaie d'en prendre le plus soin possible. Fait que je suis très proche de mes parents. Je suis très proche de mes grands-parents aussi. On a une érablière dans ma famille. On a une grosse érablière. Fait que mon grand-père fait du sirop d'érable. Il reste là à temps plein. Fait que tu sais, c'est vraiment gros. On a des animaux, tu sais, des chèvres, un pouc, des poulets et tout. Fait que c'est vraiment une belle place où ce que j'aime passer le plus de temps possible, tu sais, surtout l'hiver dans le bois, c'est vraiment beau, la neige et tout, fait que, tu sais, je suis un gars de famille, je suis pas un gars de party, vraiment pas, tu sais, je suis un gars bien simple, fait que, fait que comme je t'ai dit, quand j'ai du temps, man, j'essaie de passer le plus possible du temps de qualité avec les gens que j'aime, fait que, comme je t'ai dit, ça, la famille, je suis un sportif, je suis un joueur de hockey, comme j'adore le golf pour vrai. Là, l'été, je joue au golf souvent, régulièrement. Je trouve que c'est un des plus beaux sports côté précision, concentration. Ça ressemble un petit peu au MMA, le golf, du fait que même si tu manques ta shot, tu reçois une shot en MMA, ça veut pas dire que la game est finie ou que le combat est perdu. Là, okay? Faut pas que tu laisses ça briser ton mental. Faut que tu sois capable de passer par-dessus un mauvais coup, puis être capable de continuer puis gagner ta game. Fait que vraiment, je suis un sportif, moi. Fait que je sors pas tard, j'aime me lever tôt le matin pour profiter de mes journées. Fait que honnêtement, ça fait 3 ans et demi que j'ai pas pris de vacances. Que je suis pas parti comme une semaine ou que je travaille beaucoup. J'ai des vacances accumulées. Je pourrais en prendre. Éventuellement, ça serait bien que je le fasse. Mais je vois pas le besoin de le faire parce que j'aime ce que je fais. C'est pas arrivé une fois depuis 3 ans et demi que je me suis levé un matin en me disant « Oh fuck, je suis pas sûr, un matin ça me tente pas. » Tu sais, je travaille dans les gyms, je suis entraîneur à temps plein dans un gym, le centre Athéna, où est-ce que je suis en ce moment. Je donne des cours de kickboxing 3 fois par semaine à Belleuil, où le gym que je représente, le complexe multifonctionnel. Entre ça, j'ai des entraînements privés à gauche puis à droite. Sinon, comme je te dis, tu sais, j'aime passer du temps avec mes parents, mes grands-parents. J'ai ma tante, mon oncle, ma cousine. Ma famille, mon gars, c'est ça, puis c'est tout. Tu sais, j'ai pas rien d'autre. J'ai pas de cousin, j'ai pas de frère, j'ai pas de soeur, j'ai pas de... Tu sais, j'ai une petite famille, fait que le plus de temps de qualité possible. C'est clair que j'aime passer du temps avec mes chums aussi, mais on se voit un petit peu moins. Mais quand j'ai du temps, je vais vraiment focusser sur du temps de qualité. Donc, c'est soit faire des activités. Je suis un gars de plein air, man. Aller monter des montagnes, aller en camping, faire du kayak, des trucs comme ça, je trippe. Fait que je te dirais, là, c'est vraiment ça, passer du bon temps de qualité. Puis éventuellement, j'aimerais ça, clairement, c'est partir en voyage. Là, comme je dis, ça fait 3 ans et demi que j'ai pas vraiment pris de grosses vacances. Fait que c'est sûr que ça pourrait faire du bien.
C'est sûr que des fois, elle ressource un peu le corps. Moi, personnellement, je prends une semaine de vacances par année. C'est avec ma mère, tout seul, moi puis ma mère. Moi aussi, on a une petite famille, justement. Ma grand-mère est morte, il nous reste mon grand-père. Ma mère est enfant unique, j'ai juste une soeur. Fait qu'on est comme, tu sais, on est 4, là, principalement dans la famille. Puis, une semaine par année, je me pousse dans le nord. C'est au nord de Mont-Laurier, dans l'entrée du parc de la Vérendrye. On pogne un chemin de terre, le gros. On fait 100 km là-dedans. Puis, un moment donné, on arrive. Il y a des casses, une pourvoirie, puis on va là à pêche, là, une semaine. Puis, c'est littéralement la semaine dans l'année que je manquerais pour rien. Parce que je suis vraiment un pêcheur de un, là-bas. Le gros, c'est une pourvoirie plus pour la chasse. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont là à chasse. Puis, tu sais, des fois, quand ils ont tué leur boc au début de la semaine, ils vont pêcher un peu. Mais sur le domaine, il y a une quinzaine de lacs, puis c'est pas pêché, le gros. Là. C'est vraiment pas pêché. Fait que sort du doré là, de là à la tonne, des brochets, j'en ai pogné un de 15 livres.
Poissons, il y en a en masse.
Ouais, c'est ça. Pogné un brochet de 15 livres, pas cette année, l'autre d'avant. Fait que, tu sais, c'est tout le temps de la grosse pêche. On est là à deux, on peut en pogner là, 75 dans la semaine. Là. Fait que, on a vraiment.
Ouais, c'est clair, mais la nature, tu sais, je suis un gars simple, ça me prend vraiment pas grand chose pour me satisfaire dans la vie, tu sais. Fait que, comme tu dis, là, la nature, passer du temps de qualité avec les gens qu'on aime, je pense que c'est vraiment ça qui est le plus important. Puis, tu sais, éventuellement, j'aimerais ça pouvoir faire une soirée avec mes coachs, tu sais. Souvent, on s'entraîne fort. En fait, on s'entraîne toujours fort, mais jamais qu'on s'est vraiment vu à l'extérieur du gym. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire, tu sais. Avec Michael Dubois, Lee Villeneuve, puis Lévi Labrie. C'est vraiment des gars qui m'aident beaucoup, qu'on bûche et tout, mais tu sais, j'aimerais ça pouvoir justement les inviter à ma cabane à sucre éventuellement, tu sais, puis avec leurs enfants et tout, puis pouvoir profiter autrement de la vie, tu sais, tu comprends?
Ouais, ça c'est sûr que c'est le fun. Nous autres, moi je suis content, je suis à Saint-Jean-sur-Richelieu, moi, pas bien loin de ton coin, la même rivière, du moins. Puis nous autres, c'est ça, le gym, on est vraiment, vraiment une belle gang. Là. On fait tout le temps des affaires ensemble. On a des petits parties de Noël, des affaires là toutes les années. On a le séminaire à Toronto, Novornia au Canada, à toutes les années. qu'on se loue un Airbnb à la gang. Là. On est une quinzaine de la gang de Drew là-bas. Puis c'est vraiment, c'est hot, ça te permet de justement créer des liens hauts avec ces gens-là.
Ouais,
puis, t'sais, c'est facile de devenir amis, puis genre proche de des gens de même, parce que veux pas. On est là, c'est de s'arracher la tête, se choquer puis se péter les bras à longueur de semaine. Fait que, tu sais, c'est plus facile d'avoir un lien avec ce gars-là. T'sais, tu le vois tout de suite quand tu le vois tous les jours, quand il arrive puis il va pas, puis des affaires de même.
Ouais, ouais, ouais. Je me souviens dans mes débuts avec le complexe, j'ai été faire une compétition de jiu-jitsu justement avec Lee Villeneuve, Mathieu Devio, Dave. On était 5-6, on avait été à Toronto. En Ontario, à Ottawa, excuse, faire la compétition, on était parti avec le groupe VUS Ali, puis tu sais, ça faisait pas longtemps que je les connaissais, les gars, puis tu sais, c'est vraiment à partir de ce moment-là que je me suis dit dans ma tête, wow, c'est pas juste, tu sais, c'est une petite famille, tu sais, puis j'ai vraiment trippé, puis je souhaite vraiment refaire ça. C'est sûr que là, avec mes combats et tout, tu sais, les compétitions de joue ferment le bord un peu, malgré que je fais encore beaucoup de joue, mais tu sais, c'est comme tu dis, là, c'est important, tu sais, de pouvoir passer du temps avec, du temps de qualité avec des gens que tu côtoies, oui, au gym, mais ailleurs aussi.
Ouais, c'est vraiment quelque chose de le fun. Sinon, tu m'as parlé du hockey, tu suis ça un peu cette année?
Ouais,
gros.
Ouais, ben oui, c'est ça. Je suis ça. Écoute, à mon gym, c'est toujours du hockey qui joue. Je travaille à chaque soir, fait que j'ai la chance de pouvoir checker les games le soir. Ouais, j'étais un joueur de hockey, j'étais en sport études, hockey, tu sais, vraiment, le hockey, c'était mon sport quand j'étais plus jeune. Quand il était temps de devenir un peu plus sérieux là-dedans, c'est là que j'ai comme décroché un petit peu. Je pense que pas que c'est parce que j'aimais pas assez ça. Je pense que j'étais rendu à un temps dans ma vie où je voulais faire autre chose. Puis tu sais, c'est correct. Puis, le hockey, ça prend une grande place dans ma vie, c'est sûr. J'adore regarder. Je m'en vais justement voir le dimanche avant mon combat au Centre Bell.
Me touche là contre les Sharks.
Contre les Sharks. Moi,
ma fête, c'est le 8 décembre. Puis je vais être au TKO le 7. Ça se peut que je sois à Toronto le 8 parce que j'ai bien gros envie d'aller voir les UFC. Ouais. C'est littéralement.
Ouais, UFC, ouais,
gros, c'est littéralement mes deux Dream Fights, le co-main puis le main. Puis il tombe le soir de ma fête. Fait que je me dis, c'est un signe, faudrait que je sois là. Fait que je vais tout le temps au hockey avec mon père. Puis il a dit, il faudrait y aller la semaine avant. Puis moi, les Sharks, c'est mon équipe. C'est. Brent Burns, Eric Carlson, c'est. C'est ma troupe, man.
C'est incroyable. Imagine Marlowe, c'est encore là avec toute sa gang, Thornton, tout quand il était dans leur groupe. Ouais. Puis c'était n'importe quoi leur club, comment il était fort.
C'est ça. En plus, là, Thornton, j'ai l'impression que c'est la dernière année. Puis je suis venu à aimer Joe Thornton avec le temps. C'est sûr qu'il a commencé en étant un Bruins, fait qu'il était dur à apprécier. Mais tu sais, en tant que fan de hockey, t'as pas le choix d'aimer Joe Thornton. Le gars, c'est une légende absolue du sport, des meilleurs passeurs de l'histoire. Puis, c'est. Genre, je voudrais pas manquer peut-être son dernier match à Montréal, fait que je vais être là, ouais, justement, à cette game-là. Je pense, j'aime pas trop ça situer le monde dans le temps, là, mais en ce moment même, je pense que c'est encore une game de complet niaiseux contre les Capitals qui se joue, parce qu'on a la lumière Budweiser, là, puis juste avant que je t'appelle, ça a sonné, là, trois fois back-à-back. En fait, c'est ça, Gallagher a scoré à 20 secondes de la deuxième, Petrie a scoré à 1 minute 8, puis Agostino, que j'ai aucune idée c'est qui, vient de
c'est dans l'autre équipe?
Ouais, je pense qu'ils viennent de le rappeler du NHL ou de quoi.
Ah, fait que là, ça veut dire que c'est 5-2, man.
Il a scoré à 1.35. Là, c'est rendu 4-3, là. Là, on a...
4-3.
Bon, on a Riley qui a compté. Après, t'as Connolly et Ovechkin back-à-back. Ça a fini la période. Ouais. Canadiens ont scoré 3 buts, là, back-à-back, là, à genre 22 secondes, 1 minute 20... 1 minute 8, 1 minute 32. Fait que là, c'est tombé.
C'est vraiment ça.
C'est tombé 4-2. Ouais, puis le Backstrom vient de scorer, fait que c'est 4-3.
Ah,
ben ouais. Mais il joue cette année, man.
Cette année, c'est ça. Même si on perd 2-0 ou 3-0, on a le club pour en revenir. On dirait, les gars, ils se découragent pas, man, tu sais. Les gars, c'est tout. On n'a pas de all-star, mais on a plein de bons joueurs, des jeunes joueurs qui sont motivés, qui en mangent, qui ont le goût de gagner. Puis, man, c'est ça, là, dans la vie, là. Tu sais, le travail, ça bat le talent, man. Fait que s'ils travaillent fort, c'est sa glace, là, c'est pas compliqué, là. C'est pas une question de talent. C'est qui veut. C'est celui qui veut le plus, man. Fait que c'est comme ça que ça marche, là.
C'est pas compliqué. Ouais. Vegas ont fait la finale l'an passé, puis depuis qu'ils ont boosté un peu l'équipe cette année, ils sont plus bons. Fait que.
Ils sont pas comme cette année.
C'est incroyable. Mais ouais, non, les Canadiens, là, sont dans le. Moi, je les ai abandonnés, là, pour être franc avec toi, quand ils ont échangé Piqué, c'est mon joueur préféré, là. Puis j'avais. J'avais une. Avec 2-3 de mes chums qui suivent bien gros le hockey, gros, on avait un inside joke depuis, je te dirais, 2-3 ans, comme quoi Shea Weber était de loin le défenseur le plus overrated de la Ligue nationale, que oui, il a un plomb, mais défensivement, il est dégueulasse, il est pas capable de faire une première passe, pis ces affaires-là. Pis tu sais, c'est le fun d'avoir un défenseur qui a un plomb pis qui est capable de la mettre dedans, mais faut qu'il soit capable de faire une première passe. Pis autant que Piqué était critiqué pour ses revirements, autant il est mille fois plus fiable défensivement qu'un Shea Weber, qui est moins vite qu'avant parce qu'il est un, t'sais, il est gros, en vieillissant moins mobile. Jamais été le meilleur défenseur défensif du monde. Il y avait juste, c'est juste que si t'arrivais là top speed pis réussissais à patiner un peu, genre dans ton aide d'aller pas te saisir, il allait te rentrer dans la bande assez sévère. Mais si tu réussissais à passer ça, t'sais, t'es facile à passer. Fait que c'est sûr, je les ai lâchés un peu. Ils m'ont fait chier vraiment à l'an passé. Mais là, cette année, on dirait, ils ont les éléments à bonne place. Je suis content de voir un Max Domi qui semble vouloir devenir un joueur de hockey qui existe, parce que c'est sûr qu'avec
ses... Ouais, parce qu'il rentre à bleu, pis il shot. Ouais, il gagne pas
avec ses deux, c'est neuf. Tu sais, c'est 9 buts pendant 2 années consécutives. Je la trouvais raide, là, d'échanger Galchenyuk, qui, oui, est un jeune con à la poudre qui faisait pas ses affaires comme faut, mais t'es un joueur de talent pareil, pis... Fait que, mais non, là, Domi travaille bien, Kotkaniemi super prometteur. La seule affaire qui me gosse encore, présentement, je trouve qu'il gagne un peu trop. J'aimerais qu'il perde un peu plus, qu'il soit un peu plus poche, parce que ça te prend une couple d'années de draft top 10, 15 pour te bâtir, t'sais, un futur contender à la coupe, là. T'sais, là, on peut être une bonne équipe qui va faire les séries. Peut-être qu'une année de là qu'on va se retrouver en finale, mais est-ce qu'on est une équipe de Coupe Stanley? Pas vraiment. Je pense qu'on est à un ou deux bons draft picks de
Exact. Il
potentiellement
manque
la devenir, là.
un gros joueur à l'attaque pour pouvoir. C'est ce style Tavares là à Montréal, ça aurait été quelque chose. Mais pour en venir à Subin Weber, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je pense qu'ils ont fait flyer Subin pour faire plus de place à Pacioretty, parce que ça a l'air que Subin et Pacioretty, ça ne marchait pas en tout dans la chambre. Mais là, Pacioretty vient de flyer. Est-ce que si Subin serait là, ça serait différent? Je pense que oui. Je pense que si Subin serait là, avec les jeunes et tout, on aurait une méchante équipe. Mais regarde, on peut pas revenir dans le passé. Mais c'est sûr que là, en ayant échangé Pacioretty contre Tatar, tu sais, Subin, je pense que il aurait eu sa place dans le team en masse.
Ouais, et puis ce qui fait mal de l'échange de Subban, c'est que la trade Sergachev-Drouin est absolument justifiée, ce piqué. Mais le fait de donner le seul défenseur qui a la chance d'être peut-être piqué un jour pour Jonathan Drouin, qui, selon moi, est super talentueux, mais avait la production qu'il avait parce qu'il jouait Kucherov puis Stamkos, puis il n'y a pas ça à Montréal, là. Il n'y a pas ça. Fait que,
Mais j'ai
jamais.
encore espoir qu'ils vont échanger un défenseur avec un attaquant. On a trop de défenseurs en ce moment, là. Si Mike Weber revient, on a trop de depth.
On a
Fait que
trop
je
de
pense.
pas bons défenseurs aussi. C'est ça
Ouais,
le
c'est ça,
problème en
c'est
ce
ça.
moment, là.
Mais tu sais, ils peuvent peut-être échanger un jeune attaquant avec un pas bon défenseur, puis aller chercher quelque chose de pas pire à l'attaque qui peut nous aider. Tu sais, il va falloir que Bergevin en fasse des trades à un moment donné. T'sais, oui, il a fait des beaux trades dans les derniers temps, c'est bien, mais comme tu dis, ça nous prend un gros attaquant. On peut, il y a aucune équipe de la Ligue nationale qui a gagné une Coupe Stanley avec un goaler. On a bâti notre équipe sur Carey
Ouais.
Price, c'est bien,
Puis tu
mais
sais,
ça nous prend quelque chose.
ce qui fait le plus mal de l'échange à Subban, c'est que Taylor Hall a été échangé pour un défenseur de marde 15 minutes avant. Tu sais, moi c'est mon joueur préféré piqué, là, j'aurais pas été content qu'il parte, mais tu m'amènes Taylor Hall à Montréal, je l'aurais-tu farmé ma gueule, le gros, tu penses? Tu sais, tu parles là d'un des 5 à 6 meilleurs attaquants de la Ligue nationale qui peut finir top scorer à toutes les années avec Adam Henrique là comme premier centre là. Fait qu'on s'entend à Adam Henrique là, c'est Thomas Plekanec dans ses meilleures années at best là. Fait que ce gars-là a une production de ce genre-là avec des joueurs de même, il aurait pu faire la même affaire avec peut-être pas Dano là, je l'adore Dano là, c'est pas un premier centre là, je l'adore, mais tu sais
Non,
un Domi qui joue comme il joue, un Kotkaniemi dans le futur, ça aurait été dangereux avec Taylor Hall dans l'équipe, puis
clairement.
ça aurait fait moins mal, parce que là, tu le vois cette année, les matchs qu'on perd, c'est quand Carey pas dedans, on est en score 5, mais on s'en fait pas T6, fait que.
Exact, c'est ça, clairement. Ouais, je suis d'accord.
Puis, fait que, c'est ça, va falloir, c'est un move pour stabiliser la défensive, si t'es capable de package, là, 2-3 Xavier Ouellet pour un défenseur, tu sais, juste un peu plus potable, là, tu sais, de quoi
Plus
de.
d'expérience un petit peu, tu sais.
Ouais, c'est ça, de quoi d'un peu meilleur que Jordy Ben, là, mais t'sais, pas de tant que ça, mais juste qu'au moins tu peux se dire, on n'a pas vraiment de défenseur top 2, mais on a au moins 5 à 6 top 6 dans notre top 6. Parce que là, on a peut-être un top 4 en Petrie, 2-3 top 6, des jeunes en développement, puis un paquet de 7e défenseur, là. Un paquet,
Ah, oh, clairement.
là. Fait que c'est ça, mais.
Les gars manquent d'expérience, c'est sûr.
ouais. Mais pour la première fois, je trouve que les pions sont quand même bien placés pour les années à venir. Parce qu'avec le noyau qu'on avait l'an passé, ça s'en allait vraiment nulle part. Puis ça a été prouvé qu'on n'allait
Ah
pas gagner avec ces gens-là, donc.
non. L'année passée, on a perdu, c'est pas compliqué, on avait perdu Subin, on avait perdu Markov, on avait perdu Radulov. Qui qu'on a perdu d'autre? Comme qu'il y en a un autre qu'on a perdu. Fait que, tu sais, c'était des gros noyaux là, qu'on avait dans l'équipe. On s'est ramassé avec plein de jeunes joueurs moyens. Fait que, tu sais, la soupe était mal brassée. Pas pour rien que tout le monde critiquait Bergevin, tu sais. Mais, il nous a fait mentir. Avec Domi, Tatar qui fournissent, Kotkaniemi qui est solide. Ça nous manque, c'est ça. Depuis tantôt, on en parle. Ça prend rien qu'un autre gros attaquant ou défenseur pour équilibrer tout ça.
Ouais, Tatar, il est surprenant. Tatar, là, je suis content de le voir jouer, puis je suis content qu'il compte, même s'il y a des games qui comptent pas, Je suis content de voir ce que je vois. Parce que moi, selon moi, Thomas Tatar, c'est Andrei Kostitin, c'est fucking Thomas Vanek. C'est, t'sais, un gars de talent, là, genre comme t'en trouves rarement, mais il y a des soirs que ça tente pas. Puis il joue pas. Mais là, il joue au moins, là. T'sais, il y a des games, ça va moins bien, mais il joue parce que, t'sais, il y a des gars avec lui, t'sais, un Philippe Dano qui, pour tout le talent qu'il a pas, qui, t'sais, c'est un joueur
Exact.
talentueux, là, il est dans la Ligue nationale, mais c'est pas un top 6, mais il passe pour un top 6 potable pareil parce qu'il travaille. Même affaire avec un
Exact.
Lekkonen qui. Lekkonen profiterait vraiment de jouer avec deux joueurs plus expérimentés. Là, ça ferait la différence entre un futur scoreur de 15-20 buts.
Pourquoi il y a un buzz, ce gars-là? Il y a un A, il est assistant.
Je pense que.
Ils ont donné de où
Il y a peut-être juste le troisième A en attendant que Weber revienne. D'après
son A? Je l'ai
moi. Parce qu'il doit.
jamais. Ah,
C'est ça. Parce que, tu sais, c'est assez clair, c'est qui les leaders dans cette équipe-là. Moi, je suis vraiment déçu que ce soit pas Gallagher le capitaine, là. Je peux comprendre Weber, il sera pas encore là pour Milan, vieilli pis tout. Fait que, tu sais, Gallagher va devenir le capitaine des Canadiens, mais c'est le cœur et l'âme de l'équipe, ce gars-là. Quand ce gars-là
ouais,
joue,
clairement.
l'équipe va bien, man. T'sais.
C'est vrai, c'est vrai. Ah, il mange les bancs, ce gars-là. C'est incroyable. Ça n'a pas de bon sens, man. On dirait Steve Bégin avec le talent de Sergei Kovalev. C'est pas compliqué, là, man.
Ah, non, c'est ça. Ouais. Exactement. C'est ça qui est assez fou, man, avec ce petit Gallagher-là, man, qui. L'affaire qui me fait peur avec lui, c'est qu'il a peut-être pas la shape pour garder le style de jeu qu'il a, mais il est pas capable de jouer autrement. Fait que ça se peut qu'à 33, 32, 33 ans, il commence à être magané puis à être moins bon, mais qu'est-ce qu'il va nous avoir donné pendant des années, c'est incomparable, là, tu sais. C'est littéralement un Brad Marchand pas cochon, là. Fait que, tu sais,
C'est ça.
il fait chier tout le monde, pis t'as pas peur qu'il va pogner un 10 matchs parce qu'il est un peu tête brûlée pis il va
Non, c'est
sortir
ça, il est pas, il a une tête
un. Ouais. Fait que, ah, c'est ça, man. C'est une super bonne discussion qu'on a eue. Je vais te laisser travailler, faire tes affaires, pis
sur ses
on se
épaules.
tiendra
Ouais,
au
c'est correct,
courant.
ça dérangeait pas trop. On va espérer que contre San Jose dimanche prochain, ça soit une grosse game, puis
Mais
peut-être
ouais.
de se croiser rendu là-bas,
Ouais,
puis
on se
leur donner
lancera
top shot.
un texte Messenger pis on se croisera, c'est sûr, man. Fait
Bien
que,
sûr, bien sûr.
passe une bonne semaine, mon gars. On se tient au courant, on se voit Fight Week, le combat, puis on se parle après,
Super.
man, savoir comment t'as trouvé ça. Puis, je te remercie
Alright,
d'avoir
ben,
été
je te
là, mon
remercie.
gars.
Merci, Faber, j'apprécie, man. Super.
Yes, sir.
Yes,
Ciao.
sir. Merci. Ciao.
Yes, tout le monde, on est back, puis il fallait qu'on parle de cette niaiserie-là. Vous savez, je suis un grand fan de hip-hop en général, puis là, il y a vraiment une nouvelle qui vient un peu secouer tout le monde du rap parce que le rappeur qui a de loin eu le plus de buzz dans la dernière année, écoute, il y a eu une rise absolument fulminante parmi les palmarès. Tous les singles qui sont sortis ont charté sur le Billboard 100. Le gars, il a fait des millions de dollars en un an, puis il vient de se faire ramasser avec un RICO charge. C'est Tekashi 69. Pour l'occasion, j'ai avec moi un de mes amis partenaires d'entraînement et le premier guest américain de l'histoire de mon show. Fait qu'on expand les horizons. It's my friend Taron Thorne, man. Thank you for being here.
Thank you for having me, Faber.
Yeah, man.
Thank you.
I heard that you're a fan. You're a 69 fan.
Yeah, I'm a fan of him because a lot of people downplay him and give a lot of they discredit what he does and says he's a chump and all this stuff. But you have to realize he's marketing himself. This is how he makes his money. And yeah, this is like a lot of people will say it's not real rap. I don't think he's trying to make real rap. He's trying to make music that you can listen to at clubs because. When I go to, personally, if you go to a club, I don't think you're gonna wanna listen to like Immortal Technique. No, you're gonna wanna listen to like Tekashi 6ix9ine banging on the speakers, you know? So
Yeah, even myself, I gotta say, I'm not a fan. I don't really like his music to be, and that's the main thing for me.
yeah.
As for his person and stuff, I don't know, man. He's a controversial figure for sure. And there's been, say, the first time we heard of him, it was in controversy. It was Trippie Redd who brought him out of nowhere saying that motherfucker was fucking a child, he's a pedophile, and that we came to learn that he indeed had a child sex charge. But I think, like, it was officially that he had an underage girl doing suggestive stuff in a rap video. And, like, he didn't know that girl was underage, but she was so. And he was underage too at the time, I think. So, like, it sounds like the worst thing ever, and anything that's related to sex and children does not look good, but I think you gotta kind of give him a pass for this since he was underage at that time, so I don't see how he can really exploit a minor if he's a minor. But I don't know American law either, and that's maybe why you're here, and then you can help us. We'll talk about it later, because RICO charges and all that. We heard about it listening to mobster documentaries, but we don't know what the fuck it is and what the fuck it entails later on. So maybe we'll just speak about it a little later.
Yep.
So first time we heard of it, it was in controversy. And he popped real, real big. He became real big first. Record, I think, is 1 year ago, almost day for day. It was Gummo.
I think in February he put out Gummo. Or no, yeah, over 1 year ago.
Because I know it was before the end of 2018, and it got popping real big in January, February. That's where it peaked on the charts. But it's like the first all his records, they started straight on the charts, except for that one. But that one, I think, is probably not his biggest. It must be Fifi, but...
Yeah, the one he featured Nicki Minaj in, and that one instantly, because everyone already knew who 6ix9ine was, because like Faber said, Gummo was put out around this time last year, and it took a little while to get on the charts, but then once people knew who he was, they started looking at music he put out, when he put out Billy and Kuda and those other songs, that's when people started realizing who he was.
That motherfucker.
And then when he put out Fifi with Nicki Minaj, he really blew up. He got popular everywhere because a lot of rappers began wanting to feature with him. He was supposed to release Dummy Boy, and that had Kanye West and Nicki Minaj on one track, I believe.
That's
so,
the video which got shut up, I think.
Yeah, and that was that was supposed to come out tomorrow, and now it's getting pushed back because of this whole thing going on. But a lot of rappers are trying to feature with him because if you get a Tekashi 6ix9ine on a track, it's gonna get really big. Just like get the strap with Casanova.
Even a 50 Cent song charted because of him. So that's pretty crazy in itself, because nobody gives a shit about 50 anymore for his music. He's still relevant because he's like probably the second biggest troll around after Tekashi 6ix9ine.
Yep.
But that's why it's still relevant, but nobody gives a shit about 50 music anymore. And he's still charted with that. So yeah, he released Gummo, then became, like, he beefed with almost everybody. But I think, like, there's three main episodes of major beef. The first one being at the NBA All-Star Weekend, which was absolutely crazy. That's the time where he was beefing with everyone in LA. Yes. And he just said, yeah, fuck it, I'm pulling up in LA for the All-Star Weekend.
And when they figured out he was landing at the airport, people were waiting for him outside of the airport. And actually, like, it was on camera. They assaulted him right when he got outside.
Exactly, man. That was the crazy-ass weekend. Everybody was looking for him. When they found him, they fucking fought in public.
Yeah.
And then there was... it's pretty much during that, there was the J Prince beef, when he pulled up to the party unannounced and he got turned down, and then there was a big beef, and like, I think even the guys that caught him in LA were actually from Houston, so that's kind of why he always continued trolling LA, because he was like, you took a L, guys, I was in your city, and the only guys that could get to me weren't even from the city, they were from Houston. And
there were a lot of guys coming on there were a lot of guys posting on YouTube after that too, claiming that they were gang affiliated with because Tekashi says he's a blood from New York, which is a big gang feud
in
America.
Yeah, probably the way he got indicted with all that shit, because he's affiliating in his music, because Treyway is the 9 Trey Bloods, which is a huge Brooklyn
and
gang.
I can tie that. That'll tie into the RICO charge when we talk about it later. But there were a lot of people who were LA Bloods saying that he's going to, he's banned from coming to LA. If he steps foot in LA, that they're going to have someone go find him. And they were threatening. And it's funny because they threatened him. They put videos up of themselves threatening him. So they're kind of incriminating themselves right there, which would mean they're getting themselves in trouble if something were to happen. Because
that could be an old other topic, because even Kodak Black got put in jail because of his Instagram live.
Yeah.
People are so stupid with that
shit. They put this shit out there, and you see Tekashi doing it too, and I'm sure Faber's going to mention the next big beef that happened with him was Chief Keef summer.
Because, man, that's why some people like you, they say, you got to give him credit, because the guy knew exactly who he had to beef with. He only beef with Chief Keef. People know he's legit. That guy fucking flashed his gun at police when he was 16.
Yeah.
So people know that guy's fucking legit. That old block in Chicago is like the place where
place you don't go.
Yeah, exactly. And he pulled up there. And yes, he pulled up there with police at 4 a.m. But he still did, man.
Yeah,
and
he still put it
out. And the narrative that he put out wasn't that. Was that he stepped foot on the America's most dangerous block and nobody did shit to him.
Yes.
They're all pussies. And they're all fake gangsters that are going after him for clout. But they're not going after him. He's going after them. And when they respond, he's like, what the fuck? You're going after me, you motherfuckers.
I will say this. He did, when that whole Chief Keef beef was happening, there's videos of him walking the streets of Chicago, and he's handing out just stacks of money to homeless people. So, I mean, he does have a point in this sense. Like, the guys, I don't think he's doing this for fame. He's got a lot of money, and he's always, you always see him handing out money to people. Like, it's no big deal. And I believe, I feel like that's just part of his character. I mean, yeah, you can say, oh, he's just posting it on Instagram trying to look good. You don't see a lot of rappers nowadays, or anyone for that matter, with all this money just walking around handing money out for free to people, you know? So I do think that's part of his character. That was a plus side that came from the beef. But then you had Sosa's, the hotel he was in New York, I think, at the time, got shot at. And then people started, and this is, will tie into the RICO laws too, because every time Tekashi would beef with someone, you would see that there was a shooting that involved the person he was beefing with, and that's how they were trying to, that's how they're trying to tie him into the organized crime. So
exactly, man, and we'll get to speak about this, but that poor guy just probably got affiliated with the wrong people, because like every time he stepped out in public, his fucking friends were ending up shooting at somebody or trying to beat the shit out of somebody. He went to the Barclays to a boxing match, and his fucking manager Shawty just fucking shot at someone in the fucking Barclays Center. So,
and he has a charge on him for that, and now Shawty's in. And he got arrested too on Sunday.
Yeah, they all got arrested.
All Treyway did, and we'll talk on it later. I'm sure we're going to talk about how there were threats to 6ix9ine saying that.
Yeah, there's still new developments as of today concerning that shit. So
yeah.
We'll get to that. I think the next step is when he got robbed, which we know that was by his friends. One of the guys that beat the shit out of the dude at the airport.
Yeah.
One of these guys is one of the guys who fucking kidnapped him.
Yeah, I forgot what city that happened in, but
in Brooklyn,
they literally.
So I know that was like the big meme that this motherfucker is going everywhere and nobody touches him, and he gets
fucked up
in his own city, man.
which is crazy because the people closest to him were kind of conspiring against him. They literally snatched him up, beat the hell out of him, took his chains and wallets and everything he had on him.
Yeah, they stole that for $1 million in jewelry.
Yeah, and Tekashi actually called the police saying he had just got robbed, and there were pictures of him getting, like, his face and stuff. And then going back to the Instagram shit, I'm pretty sure the guys who stole his chains were posting on Instagram that they had it.
Yeah.
They're incriminating themselves, right? That's stupid.
Yeah, that's the most stupid stuff. And then there was, like, The calmer moment, like when he released Fifi and all that.
Yeah.
Like, calmer moment. He was beefing with Trippie Redd all the way. So anytime he didn't have somebody to beef with, he just went at Trippie Redd. And I have a belief that this beef is not entirely real, because they're from the same label, yes, but they're signed under the same manager.
Yes.
So it's got, and which is WMEING, which is fucking owners of the UFC.
Yeah.
They're the talent agency that manages Trippie Redd and Tekashi.
I didn't know that part, but I will agree with Faber. I do feel like that they orchestrate that beef.
Yeah, because every time he didn't have a beef, Dang, Trippy went back at him, or he went back at Trippy, fucking stole his girlfriend. And
yeah, and then when Tekashi got in, put in jail, there's Trippy's posting himself dancing.
Yeah.
To Akon's locked up and shit for Tekashi going to jail. But yeah, I feel like that beef is all that's generated to keep those two popular and relevant. I'm not saying Tekashi will become irrelevant because, I mean, everyone knows who he is. Whenever he does something or something happens to him, it's in the news right away. TMZ reports it right away. So, yeah, whenever him and Trippy Rep start beefing, they start getting reported on as well. So, that's definitely all publicity, I feel like.
Yeah, and then probably the last beef, which, for my opinion, was probably the most fucking dangerous beef he could get in, was the YG beef.
Yes.
Because, man, fucking YG, man. And all his friends, like...
Yes.
That, these guys, there are rappers that are not real gangbangers, and there are rappers that are, like, too stupid to move out the hood, even if they're millionaires, and that probably get shot at once a year. And that's fucking YG and his guys, and that was... Again, a smart decision to kind of make them look weak on the Tekashi's part. Because if you can, like, win beefs against Chief Keef and YG, how can people think that you're not a real-ass gangster guy? Yeah. So, that was a dangerous beef, but, like, there was that confrontation at the Complex Con.
Yes.
Which probably directly led to the shooting at Kanye West, Nicki Minaj, and Tekashi's video.
Yes.
And that's when he had to go back to court, got kind of a break in his probation stuff, because they told him, okay, we'll let you once again go, but now, as we know, they only let him go because the feds had him. But they said, oh, we'll let you go, but you can't affiliate with Treyway anymore. And
that's why he stopped yelling Treyway.
Academics, DJ Academics really said that the group split up after the shooting in LA at the video shoot. So he got arrested, like, mainly because his fucking friends were trying to kill him because he dissociated from him. And these guys, his manager Shoddy, the other guy named Creepy, the fucking guy who got him robbed and shit. These guys are real ass gangbangers, which most of the charges related to Tekashi are because of them, are actions these guys did.
Yes.
But, like, that we'll get into the RICO charges. But now we know that when they split up after the video shoot and Tekashi just went on publicly and said, I fired everybody, I'm rolling alone now. Man, the feds, they knew that these guys, since Tekashi was not gonna earn him any money anymore, they were just fucking trying to kill him.
Yeah.
So that's mainly why he got arrested. And they decided, like, they're probably investigating and doing shit for a long time. But that's at that moment they said that's the time to act. We're gonna go through with the case right now. And since then, he's been transferred to a new jail, which is not, he's not in the general population anymore.
He's in protective custody.
Yeah, exactly. And TMZ has reported, and it's a weird report the way they phrased it, but they said that he was being transferred to a new jail that is known for people who cut deals.
Okay. See, and like Faber said, people around him were the ones trying to bring him down. And I think he knew something was up because I think Saturday he was live streaming on his Instagram and he was talking about, he was being real discreet about what he was saying and saying shit like, man, these guys are going to try to come get me. And he was saying it, he was wording it a little different.
And he was listening to the music that, like, I was listening to I'm Upset by Drake, like, 50,000 on my head is disrespect.
Yeah, that's...
And he was listening to Many Men by 50 Cent. Yep. You know that he kind of knew something was up. And he got, that day exactly, he met with the feds.
Yeah, and the day before that, no, he didn't. DJ Academics is a good source for this because he knows Tekashi directly. Yeah, they talk about their business related decisions, and when Tekashi got picked up on Sunday, apparently what had happened was the police said, hey, we have reason to believe people are gonna try to kill you today. That people were conspiring to come and kill him, and as Faber mentioned, when they arrested him, they already were trying to build a case on all this stuff that's been involving him and the people around him. So they brought him in. And what they're trying to get him on is the RICO law states that it's how they busted mobsters and things back in the day. I might miss some specific details, but basically what it is if I was a person of higher power and I was having people do shootings for me, that these crimes could be linked back to me because I'm the one organizing them. I'm the one getting these, having these hits or something laid out. And in Tekashi's case, I can't necessarily say that this is going to be unknown. Maybe it'll come out years later that he was having his guys go shoot at these other rappers for whatever reason. But, for the most part, you can look at it as they're trying to tie Tekashi with the organized crime thing and racketeering of money, like he was money laundering and things like that. There's a whole bunch of shit going on with him, but honestly, you can look at it as he's never been seen with a weapon. He's never physically done any of these shootings that have been mentioned. It's been all of his crew. And this is how they're trying to bring it back to him. They're saying these shootings happened because of him. We can link all these shootings with the people he's beefed with. And now that he was in charge of like having these shootings happen. He tried to get a bail. His attorney tried to get him bailed out. And they said, we'll give the whole bank account. And this was after the prosecutor trying to prosecute him said, we can't give this man a bail. He can put up any amount of money for bail that he wants to. That's what he's done in the past. We can't just let him get a bail because we don't know what will happen this time. Like, this is a serious case, and we could actually get him to go to jail this time. So he got denied bail, and as Faber said, he's been kept in protective custody. I didn't know he got moved to another jail as of recent, but they're still trying to pick him up on the racketeering and the possession of a weapon and all these other charges. I do think he's going to talk, though. I do feel like he's going to realize, look, he's 22 years old. He could face up to 20 years if these charges smack him down. And you look at all the guys who he's been associating with, they're like 30, 40 years old. These 40-year-olds are getting him, these adult men are getting him in trouble trying to kill a kid over gangbanger shit. I understand that some of that stuff is serious in that lifestyle, but they're gonna try to kill a 22-year-old kid over this stuff. So yeah. I feel like he's gonna talk and realize this real soon.
Yeah, cause there's like two theories at that moment, but if you look at the RICO charges and stuff, there is being charged with things that are related to drug trafficking that took place in 2013.
Yeah.
Which
he's not a minor at the time. Yeah, he would have been a minor at the time.
So that's where you know that these charges, like, they're not things he directly did. They're just trying to put him as, like,
a co-conspirator, conspiring exactly. with these people.
Exactly. And they're kind of saying that the money he made being a famous person and rapping and stuff kind of financed activities for this criminal organization that were the Nine Trey Bloods and stuff. So they're trying, but like the two theories at that moment is that either he talked and they're moving him away because he's gonna be in protective custody elsewhere, because like he's really now with neutral people, he's not with gang affiliated people. So because where he was, Bloods were kind of against him because he went in court and said that he was never a gang member. He was only portraying that gang image in his music, like lots of rappers do.
A lot of rappers do that to market themselves. Yeah, like Lil Pump does that. A lot of rappers, they just sit there and talk a lot of this shit, and you know, because it's what the consumers like, especially in America. That's all, like, I'm in college now currently. That's all these 19, 20-year-olds want to hear. They just want to hear all this party music about drinking lean and popping Xanax. That's what they want to hear. These rappers understand that, and they want to hear about shootings and shit like that. So they know how to market themselves. They're doing this, but they're rapping about this, but they're not really doing it like Chief Keef, YG, and some of these other rappers did back in the past. 50 Cent,
fucking Bobby Shmurda.
Bobby Shmurda, who's actually in jail for
a similar case.
Yeah, for a similar case. And
yeah.
And Fat Joe even is, there's a video floating around of Fat Joe telling Tekashi, this is what they did to
Bobby.
This is what they did to Bobby Shmurda. They were building shit. The police were always watching Bobby, and they were building a case on him, and then they got him when they finally could. And
yeah, but that guy, man, his song was awesome. I liked it a lot.
Yeah,
really, like, told every crime he committed. Like, everything he was accused for was mentioned in that song. And, like, man, his most famous line in the song is, Mitch got a buddy about a week ago, and his fucking friend Mitch is in jail for life because he killed somebody.
Yeah.
So, but that's one theory that Tekashi spoke. And the other theory is the DJ Academics theory, which is not stupid, which is that the Feds are doing this to show the other guys that, look, man, we just took him off to a place where people take deals. So if you don't talk to us, he's going to talk to us before. So they're trying to make somebody talk within that clique. Either Tekashi or any one of them. So they just try. They're trying to make somebody talk. And that's, by transferring Tekashi, that's not meaning he's the one who talk. It's maybe just a move from the Feds for the other to panic and say, oh shit, Tekashi's probably speaking, so I'm gonna do it too, because I don't want to get leaded. I don't want to get life if I can get 20.
That is the most reasonable theory, because, like I said, DJ Academics is very close to Tekashi, and two, that happens a lot in the U.S. court system, though, because these guys can't communicate with each other, so there's four of them who were arrested, right? Four or five, I believe.
Yeah.
But they're all arrested, and they haven't spoken to each other since they've been arrested. I know that. I guarantee if Shoddy's sitting in an interrogation room, the deputy interrogating him is going to show him the notice. Hey, we just shipped your boy over to whatever, into protective custody, where he's going to talk soon. So you better get to talking before he does. And I guarantee you, these guys, everyone, when they're put on, personally, if I'm put on the spot and it's like, look, if you don't tell on someone who you were going to try to kill anyway, that what this whole deal is about, you're going to face jail time longer because he's about to tell us what's going on. We're going to cut him a deal. People are going to start talking real quick. I guarantee you the case will probably be figured out within the next 2 weeks because like Faber mentioned, it's a mind game right now. They're trying to get someone to talk first.
That's probably it, because, man, when they come with RICO charges, they don't come for a year or two in jail.
Yeah, this
they
is like 25 to life.
Yeah,
this
they want to put these fucking guys in prison for a long ass time.
This is how they got John Gotti and shit like that. And, like, going back to why it developed is because, like, organized crime back in the days, a lot of the Italian mobs would say, we got all of our money through an olive oil companies and shit like that. Whereas, if you look at, like, Tekashi, when his attorney tried to post bail for him, he's got $1.4 million in his bank account. I guarantee you Tekashi doesn't just have $1.4 million in his name. I guarantee you Fifi probably tripled the amount of that amount. So, that shows something right there. The people around him are probably pretty smart, because they said, okay, we can use this guy's career for drug trafficking and say, oh, we got all this money because he's a rapper.
Yeah. Exactly.
That's another thing.
Most of these guys were on payroll at one point.
Yeah.
Exactly. So.
And they could say, oh, we got all this through his rapping career, which you could do that. Like, the money from selling drugs and weapons, that's not documented. They can find it and just say, oh, we got it through his rapping career, which is a good way to wash it through. And I guarantee you, if they do figure out something like that has happened, they can hit them with the organized crime charge right there, and they'll all be in jail for a good long time, because that stuff's not a joke in America. But there's a lot of complexity to that law that people can get out of it almost. So
yeah. So how does it end up, man? What do you think happens? Does he get most people get a plea deal? Does he get a plea deal? Like Bobby Shmurda type of plea deal? Or does he get out? Does he speak and get something even better? Does he get it with 20 years? What happens?
I feel like he'll talk. And I do, because he already showed in jail. He said, I'm not a gangster or a gang affiliated. He already showed talking in court about that. He just said that shit to sell his music. And I guarantee he is going to talk. Because like I said, when he's probably thinking real long and hard right now, do I really want to sit in jail for the rest of my life when I have all this money that I could live comfortably with for the rest of my life? Because I'm trying to save four older guys who were trying to kill me? No, he's going to, I guarantee you, he's going to tell on them in the next few weeks. They might cut a deal. I don't, now if he serves jail time or not, I don't know. I don't know about that. If he does, it'll probably be less than 5 years. Something's going to get figured out with his attorney. He's probably paying the best attorney in the world to find some loophole that they can figure out. And I guarantee you he'll get less than 5 years if he talks. If he stays quiet and they figure out a way to get the RICO charge on all of them or his friends tell on him, then he's probably going to be in for 25. So I think that's how it ends one of those two ways, if he doesn't talk.
Man, it's not seen well when somebody, like, snitches, but, yeah, like, if you look at it in his way, man, these motherfuckers were literally trying to kill him.
Yeah.
In the end. And just because he told him that, no, sorry guys, I'm not affiliated anymore, man, and I don't know how it ended, how he told him, if it ended in good, probably not in good terms, like, yeah, since they were trying to kill him, but still, these guys that, he's sitting in jail right now, so he has all this time to think that, man, these motherfuckers that were trying to pretend like they were family and stuff, they are the reason why he's sitting there, yeah, mainly. Because Tekashi spoke a lot, said a lot of stupid stuff, was probably willing to fight somebody if he had to, but was not shooting at people, was not selling drugs, yeah, was not doing any of that stuff. So he's sitting in there because of them, and they were trying to kill him in the, yeah, end. So how do you not say, fuck these motherfuckers, I'ma tell everything I have to say, and fuck, man.
Yeah, like Faber said, snitching in the gang scene is frowned upon, and people will get killed for snitching. But if
Tekashi shot at people,
then we got
you shut,
yeah,
your mouth. You fucking shut, yeah, your mouth because you did it. Everybody did it, and you're all in it together. And you don't snitch on your brothers. But nope. If you didn't do shit, you're sitting in there because of them and they were trying to kill you, man, fuck these guys.
Exactly. That's what, see, and I think that's the case and why he tells, because we haven't seen him. Yeah, he's holding a gun in the Kuda music video. That thing's probably fake.
Every rapper's
holding a gun. I mean, it's not like Meek Mill where they showed up at his house and said, hey, you have any weapons you violated probation with? And the weapons he showed in the video was what he had in his house. But moving on, I guarantee you, he's going to realize, I didn't do any of this shit. I didn't do anything. I was just bringing these guys, because realistically, he brought them along for the ride. I don't think, like, he would yell Treyway in his song, but Treyway didn't promote him well. Like, he promoted himself. He promoted himself on his Instagram, talking shit, starting beef, making his songs. Like, you can almost argue he made himself, and these guys brought him down.
Yeah, he made himself and these guys. And
yeah,
either you like him or not, that's what happened.
Yeah. He made himself by talking a lot of shit, trolling a lot of people, and making music that people want to hear, and that's how he did it. I mean, he if you look at him, he really almost sold his soul with the rainbow hair, the face tattoos. He marked himself up to fit this image of a clown rapper that everyone wants to see, but you know, at the end it paid off, because you look at how much money he had, but it didn't pay off in the sense that the people he surrounded himself with are bringing him down. And all these rappers warned his ass. DJ Academic said that they were talking way before he blew up and said, look, man, if you get involved with some of these dudes, you got to realize that they might be the ones to bring you down later, and they might be the ones that'll harm you later on. So you got to really think long and hard about it. I feel like he thought these guys were his friends, and they weren't. They weren't. Honestly, they probably were just in it for the money.
Yeah, man, and like, he did good to market himself. He knows how to craft the hit.
Yeah.
But is Tekashi 6ix9ine like the most intelligent dude we've seen? Probably not. Like, he didn't have like that, like, social intelligence to see that these motherfuckers were not in it for the good reason. And some people are really happy right now that this motherfucker's out of here, and we're probably at least 5 years off, okay? So, it's good. But It's kind of a sad story, too, that, like, a kid at this age, man, this young.
He's 22. Keep that in mind, people. He's 22, and look at what... I mean, he's... Realistically, he's done what a lot of other music artists haven't been able to do in a lifetime.
One year, man. In one year. Always, like, just he always told us that his career was going to be short, and, man, I think if this might be it right now, because if... Like, maybe they'll find a way to get his project out. But after this, if he gets 5 years in jail, he gets out. The guy's still rich. Maybe you just want to like go somewhere, erase himself, and not be in that spotlight. Because, man, it's tough to come. Like, we've seen it with many rappers. Some people go and do a couple of months, a year, and they're good.
Yep.
But people who do, like, long time, like Boosie... Like, yep. I think Bobby Shmurda is going to be tough coming out, man. He's not that Bobby Shmurda back in, like, 2014.
Yeah.
Which was the biggest thing. And so, man, I feel like this might be it, man. We might have just seen, like, the craziest one-year career ever, man.
Yeah. Which
like, there was one-hit wonders. That guy will have been a one-year wonder. But what a year, man. That guy literally
10 for 10
dominated.
On the Billboard, yeah. And then... I guarantee Dummy Boy would have had 5-10. That would have probably went platinum within 2 weeks. Easily.
Oh, yeah. That guy's huge, man. And I think the album itself would not have sold that well. But in the end, it have sold a lot of copies because it's single.
Yeah,
it's
the single
guy.
On,
and
the
single.
On.
And I think he was putting Fifi on that one.
Yep,
he was putting Stupid on that one.
Tati, too.
Tati. So just he's probably platinum with these three singles. He's probably platinum with Fifi.
Yeah. Oh, yeah. Without a doubt.
Drake was like platinum with God's Plan, and he went like triple platinum with his three first.
And he hadn't even put out album yet.
Exactly, man.
He already went platinum with God's Plan. So.
So Tekashi, man, it's.
It's unfortunate.
It's unfortunate that like rappers, man, these days they're young and they're impressionable and they're willing to do almost anything. Like, and he got warned, but he didn't believe that would happen, and I. Kind of know where it comes from because when I was younger, I did fucking stupid stuff. And my mother always told me, you're gonna end up in fucking shit because of that. And hey, I did, man, I did, and I should have listened. But when you're young and when you do your thing, and like nobody can stop you, and you think you're doing your thing well, and it's not gonna happen. It happens to everybody, but it's not gonna happen to you. And he had that mentality, and unfortunately, he got caught up in it. So, as much as I'm not a big... I like two songs from him. Like, I like Gummo, so it's the first song. I like... The video is hilarious, man.
Yeah.
With the car with, like, 30 pounds of weed on it. So that's hilarious, and that's the way we discovered him. That was fucking outrageous at the time. Since the only thing we knew about him is that he was maybe a pedophile. And you see that fucking outrageous
fucking...
stuff. And I like Billy.
Billy's good.
I like Billy. And Kuda's... If somebody plays it, I'm gonna listen to it. It's not on my playlist, but it's okay. But most other songs, they bug me out. I hated Fifi.
Yeah, I actually didn't. I'm not a fan of Fifi either. It's whatever. I feel like
the fucking Latino song he did too was god
awful.
Like,
the Latino album. I don't see, and this just shows how popular the guy was. He put out a Latino. I'm pretty sure that was an album he put out too, and that thing made. Like top 50 on American billboards, which is just crazy. Like
he charted with that stupid song.
It's just ridiculous.
And, man.
And then when he put out Stupid, that song blew up. I watched. I was watching the Detroit Lions game last week, and Kenny Golladay, who's a receiver on the Lions, caught a touchdown and started doing the Stupid dance because he was like, "Yeah, we're gonna do the Stupid challenge." So. God, like everyone knows who Tekashi 6ix9ine is at this point. If you don't, I don't know.
But probably just not listening to rap music.
Yeah.
Even then. Because rap music is the pop music now. So
it is.
Everybody knows about these guys. So, man, get it. We'll leave it at that, man. I think we made a pretty good retrospective of everything that happened. And then, man, I'll wish him luck. I don't want, like, a young guy to be stuck in jail for so long because of the stupid people he associated himself with. So... I'm going to wish him luck, and man, thanks a lot to have come on here and speak about me with this, because man, I had to do it. I love hip-hop since like I'm a young guy, and I had to, that's too big a news to not speak about it. And since Adam is like kind of on the leave now, I've got my own podcast, so I can do whatever the fuck I want. So I wanted to do this, and I'm so happy, man. You could came here. Since you're American too, you know more about these laws. Thanks a lot, man, and I'm gonna wish you a good Thanksgiving. Happy Thanksgiving weekend.
Thank you,
and we'll just go to the seminar and fucking roll some jiu-jitsu.
Yep, we're about to go train, everyone. Thank you. Appreciate it.
Thank you, man. Yes, on est de retour. Très bel épisode, comme je vous l'avais mentionné. Un gros merci à mes invités. Merci à Johan Lennes. Très belle discussion qu'on a eue ensemble. Puis je dois vous l'avouer, ça me fait précisément 2 semaines que ça me fait la même chose avec Johan et avec Zachary Powell la semaine d'avant. C'est des gars avec qui j'ai eu des discussions. J'ai eu Zachary sur le vlog du dernier TKO. Johan, je lui avais parlé après le TKO Fight Night Earth. Fait que c'est des gars que j'ai parlé ici et là dans des événements, mais qu'on n'a jamais eu la chance d'avoir de longues discussions. Et puis, dans le cas de Zachary, ça a été avec le hip-hop. On a eu vraiment une belle discussion avec Johan. On a parlé de hockey, qui est un sujet qui me passionne tout autant que les arts martiaux mixtes et que le hip-hop. Donc, j'aime ça. C'est de même que je m'investis dans des fighters, que j'ai des longues discussions avec eux sur des choses que je pensais pas qu'on allait discuter de ça. Puis, tu sais, c'était pas des affaires qui étaient prévues. Il y a quelques questions que je me prévois toujours. Bien que je ne suis pas un gros gars de préparation, là, je vais vous l'avouer bien franchement, mais je me prévois toujours comme des points. C'est le principal que j'aimerais entendre le combattant aborder. Et puis après ça, j'ouvre un peu la discussion à n'importe quoi, vers quoi ça se dirigera. Puis, dans le cas de Zachary et dans le cas de Johan, ça s'est dirigé très naturellement vers un sujet que les deux, on avait des intérêts en commun, puis c'est ça qui donne les meilleures discussions. Donc, agréablement surpris de ma discussion avec Johan Lennes, qui open invite pour le podcast, tout comme Zachary Powell d'ailleurs, le open invite pour le podcast. Ces gars-là ont des super bons sujets de discussion ensemble, c'est toujours super le fun. Puis quand on a une discussion qui a l'air organique, qui a l'air naturelle, je trouve que c'est ça qui donne le meilleur contenu, puis j'ai l'impression que ça a été vraiment ça pour ces deux entrevues-là. Donc, merci les boys. Merci à Johan, super généreux de ton temps, ça a été super. Dans la deuxième portion, merci à mon ami Taron Thorne. Je voulais vraiment parler de cette nouvelle-là, TKC69. C'est rare qu'on ait un rapper qui fait autant de bruit en l'espace d'un an et puis qui se fait arrêter avec une loi qui est carrément une loi pour arrêter les boss de mafia. Donc merci à Taron, qui est un Américain qui a réussi à nous éclairer un peu plus sur les lois-là, sur ces lois-là, c'est-à-dire, et puis ça a été vraiment très le fun de jaser avec ce sujet, de jaser de ce sujet-là avec lui. C'est-à-dire, c'est vraiment un sujet que j'avais envie d'aborder. C'est mon podcast, je me permets de faire ce que je veux. Et puis, ça a été vraiment le fun. So, thank you, Taron, for coming along. It was really fun to speak with you. And I look forward to see you and roll with you like we do every week. So, thank you, buddy. Et puis, c'était ça. Je vous ai laissé les social media à Johan Lennes sur sa portion de l'entrevue. Donc, assurez-vous de le suivre, c'est bien important. C'est un des combattants du futur chez la 170 livres et un des gars, d'après moi, qui va attirer pas mal d'attention dans le futur comme combattant québécois. Donc, assurez-vous de suivre Johan Lennes. Suivez MMA Talk sur Facebook. Sur Instagram, c'est @TheMMAtalk. Sur Twitter, c'est @QuebecMMA, Québec MMA. Sur YouTube, Québec MMA est la chaîne. Si vous voulez me suivre, moi, pour une raison ou une autre, sur Instagram, c'est @FaberGlass. Je vais tout vous mettre ça dans l'écran quelque part ici. Donc, that's all. Ce fut le deuxième épisode. Merci d'avoir été à l'écoute du FaberCast. On se voit la semaine prochaine sous peu importe quelle forme que ce soit. Et c'est ça. Bye.